Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés.
Nicolas Creusel.
Et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans votre rendez-vous de débat sur l'actualité, comme tous les soirs sur France Info. On va parler ce soir de Hong Kong tout d'abord. Deuxième jour de chaos à l'aéroport, des vols annulés, reportés, des passagers bloqués par dizaines de milliers et le peuple qui continue de demander plus de démocratie face à l'emprise chinoise. Le régime de Pékin brandit en réponse la menace d'une intervention militaire pour calmer cette révolte et le débat rejaillit en France puisqu'une vingtaine de députés de la majorité dénoncent le silence d'Emmanuel Macron, le silence de la France, pays des droits de l'homme. Autre sujet de débat ce soir, l'avenir de la droite en France. Quelle place, quelle ligne politique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Comment les Républicains peuvent-ils renaître? C'est ce soir la clôture des candidatures pour succéder à Laurent Wauquiez. Il y a 3 candidats. Nous verrons si les lignes divergent vraiment. Et puis comment concilier plaisir en vacances et sécurité? Le drame d'hier dans la Manche, la mort de ses 3 enfants dans le naufrage d'un petit bateau de plaisance sorti sur une mer agitée nous rappelle les dangers de la nature et notamment de la mer. À l'autre bout du pays, alerte maximale au feu de forêt avec des massifs entiers qui sont fermés dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Pour discuter de tout cela pendant une heure, nos informés du soir, c'est d'abord Jad Zahab, fondateur du Parlement européen, auteur de La France est une chance. Bonsoir, merci
bonsoir,
d'être là.
Bonsoir, c'est le Parlement des étudiants.
Pas le Parlement des étudiants, soyons précis. Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, là j'ai bon.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être là. Et Georges-Marc Benhamou, journaliste, historien, romancier, conseiller politique. Et vous êtes là, Georges-Marc Benhamou, pour nous présenter votre dernier livre, Le Général a disparu, qui sort demain chez Grasset. Bonsoir, merci.
Bonsoir, merci.
On en parlera notamment en fin d'émission, bien sûr. Et on commence donc avec la situation, une fois de plus, tendue à Hong Kong. Hein, c'est le cas depuis plusieurs semaines. Il y a d'un côté les manifestants qui aspirent à plus de démocratie. De l'autre, le gouvernement local aux ordres de Pékin. La semaine dernière, on a vu une journée de grève générale. C'était déjà inédit hein, pour cette ancienne colonie britannique. Le retrait des Britanniques, c'est en 97, c'était il y a seulement 22 ans. Là, on a franchi un cap supplémentaire depuis 2 jours avec le blocage de l'aéroport. Et en face, un gouvernement local qui accuse les manifestants de vouloir détruire Hong Kong et Pékin qui menace de plus en plus d'intervenir militairement. Cette situation inquiétante, on le voit des deux côtés. Le dialogue semble impossible. Julien Bayou.
Ah oui, je pense que le dialogue, oui, il est impossible parce que la demande fondamentale des Hongkongais, en tout cas de ceux qui manifestent, après moi je peux pas, évidemment je suis pas loin d'être expert, c'est au moins le maintien de cette doctrine un pays deux systèmes et donc aller plutôt vers la voie d'une démocratisation de Hong Kong. En 2014 il y avait une demande d'élection libre, là c'est le refus de initialement c'est le refus d'un projet de loi d'extradition de criminels qu'il faut prendre avec des guillemets parce que évidemment, vous pouviez être assez facilement qualifié de criminel et donc intégré finalement au pénal chinois.
Mais ce projet, il a été suspendu. En tout cas, il a été suspendu. Reporté. Les manifestations ne se sont pas calmées étau qui s'est resserré. Quand même.
Et là, il faut dire les mots. Il y a une crainte d'une répression militaire terrible. Si on en croit les images qu'on voit et ces convois de camions et de tanks à la frontière, c'est peut-être un nouveau Tiananmen. Donc, on n'est plus dans le dialogue, évidemment, là, de ce point de vue-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a un moment où la communauté internationale doit se faire entendre.
Cette menace d'un nouveau Tiananmen, est-ce que c'est ce qu'on commence à entendre hein, dans la journée, dans la bouche de plusieurs spécialistes, Georges-Marc Benhamou?
Je pense que ce sera pire que Tiananmen. Je crois que la confrontation, effectivement, les aéroports bloqués, les vols annulés, l'économie de ce micro-État très riche qu'est Hong Kong perturbée, les risques de contagion, la puissance chinoise ridiculisée, la confrontation, sauf surprise, et je ne suis pas un spécialiste de la Chine, comme Julien Bayou ne l'est pas également.
Voilà.
sur le plan purement machiavélien, il est évident que la confrontation aura lieu, sauf surprise,
que ce sera bien plus... C'est des centaines de morts, c'est des milliers de blessés. Donc, si vous nous dites c'est pire, ça fait froid dans le dos.
Parce que, en plus, c'est l'absorption violente d'un appendice âprement négocié il y a 22 ans. Il faut se souvenir, en tout cas les plus anciens, qu'au moment de la sécession, enfin du retour au giron chinois, on avait promis que la démocratie, le système un pays pourrait fonctionner. Donc c'est la fin de cette utopie. Et si la répression est sévère, elle aura un aspect symbolique visible. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait peu d'images d'une déflagration. Mais face à cette déflagration, face à cette confrontation, à ce possible, ce qu'on ne souhaite pas, Tian Admin, qu'est-ce que nous ferons?
Nous, la France et la communauté internationale.
Qu'est-ce que fera Monsieur Trump, qui est si fort en gueule contre les Chinois?
Qui ce soir appelle au calme.
Qu'est-ce que fera l'Europe, qui n'a pas de politique étrangère? Qu'est-ce que peut faire la France? Là où on est devant une situation qui s'annonce catastrophique, enfin sous les principes de la réelle politique, hélas.
Alors, l'inquiétude de Georges-Marc Benhamou, vous la partagez, Jacques Zab?
Oui, entièrement, et on comparait cet événement avec Tiananmen, et effectivement ça a été mentionné à l'instant. Aujourd'hui, on est à une époque où les images circulent beaucoup plus vite, où les images existent, et on est au courant aujourd'hui de ce qui se passe là-bas en temps quasiment réel. C'est un symbole aussi, le fait que cet aéroport soit bloqué. Il faut rappeler que c'est le 8e aéroport le plus fréquenté dans le monde en termes de trafic passager. C'est un symbole.
C'est une stratégie pour se faire médiatiser.
Tout à fait. Tout à fait.
Quand vous bloquez un aéroport, on parle de vous dans le monde entier.
Exactement, puisque dans cette mondialisation et dans cette synergie qu'il y a entre tous les continents et tous les fuseaux horaires, quelle que soit l'heure, eh bien effectivement, c'est un symbole extrêmement important. Et pour ajouter un élément aussi, on est parti, effectivement, ça a été mentionné par Julien Bayou, d'une contestation d'un texte qui avait pour objectif l'extradition vers la Chine continentale. Mmh. On est aujourd'hui vers des revendications beaucoup plus internes avec un fait générationnel, et j'ai entendu et lu beaucoup des jeunes qui manifestent à Hong Kong. La première manifestation, c'était le 31 mars, ça fait donc 5 mois. Beaucoup disaient: nos parents aspiraient à la réussite et au succès économique, nous aspirons à l'émancipation politique et à un nouveau système. Donc en fait, on a un glissement des demandes, on a un terreau fertile qui s'accumule, mais effectivement, on est face à un vrai sujet de civilisation, mais en tout cas de revendication de plus de liberté dans un pays où effectivement on n'est jamais sûr que la répression n'arrive pas à un moment ou à un autre.
Que peut-on faire maintenant? Que peut faire la communauté internationale? C'est les questions que posait Georges-Marc Benhamou. On y revient, on en continue d'en parler juste après l'essentiel de l'info à 20h10 avec Thomas Benesch.
Les 3 enfants tués dans un accident de bateau hier dans le Cotentin sont morts noyés. Ils se sont retrouvés piégés dans la cabine de l'embarcation. Le moteur de la vedette de plaisance s'était auparavant enrayé. C'est une vague qui l'a fait chavirer. Explication livrée ce soir par le procureur de Coutances. Un homme de 87 ans et une aide-soignante en garde à vue dans l'Essonne. L'octogénaire est visé par une enquête pour assassinat. On le soupçonne d'avoir étouffé hier soir avec un coussin une résidente d'une maison de retraite à Metz. La professionnelle de santé est-elle suspectée dans cette affaire de non-assistance à personne en danger? Un questionnaire envoyé aujourd'hui à l'ensemble des maires de France. Objectif: savoir s'ils ont été victimes de violences dans l'exercice de leurs fonctions. La consultation doit durer jusqu'au 15 septembre. Elle fait suite à la mort mardi dernier du maire de Signes dans le Var, Jean-Mathieu Michel, renversé par un fourgon. Ce n'était plus arrivé depuis l'été 2017. Les monts Toulonnais dans le sud du Var sont classés demain en risque extrême incendie. Par ailleurs, tous les massifs des Bouches-du-Rhône sont interdits d'accès pour la journée de mercredi. Les droits de douane supplémentaires de 10% sur les produits chinois importés aux États-Unis sont reportés. Entrée en vigueur annoncée pour le 15 décembre. Donald Trump dit prendre cette décision pour ne pas pénaliser les achats des Américains pour les fêtes de fin d'année. Enfin, en tennis, Benoît Paire qualifié pour le 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati. Victoire sur abandon face à l'Espagnol Fernando Verdasco.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir l'historien et journaliste romancier Georges-Marc Benhamou, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et Jacques Zab, fondateur du Parlement des étudiants. On évoquait avant le rappel des titres la situation à Hong Kong, cette aspiration à plus de liberté qui, pour l'instant, n'est pas franchement soutenue par la France, plutôt silencieuse depuis le début de cette révolte. Et c'est du côté de la majorité aujourd'hui que les premières critiques se sont faites entendre. Une 20aine de députés La République En Marche signent une lettre ouverte pour dénoncer ce silence. Et c'est Jean-François Cesarini, député du Vaucluse, président du groupe d'amitié France-Taïwan, qui a rédigé le texte.
Il ne faut pas attendre effectivement qu'il y ait un énorme drame à Hong Kong pour ensuite s'exprimer en regrettant ce qui s'est passé. Je pense qu'il est temps que la communauté internationale parle à la Chine, pas de manière manichéenne, à la fois la France est l'ami de la Chine, et à la fois la France doit aussi évidemment soutenir et entendre des aspirations démocratiques, surtout nous en tant qu'héritiers de la Révolution française, on sait que le suffrage universel est très important.
Julien Bayou, quand vous entendez Jean-François Cesarini, député du Vaucluse, vous souscrivez ?
Oui, je souscris. Et puis, il faut le dire, on a coutume de brocarder les députés comme des Playmobil, les députés en marche, je veux dire. Là, pour le coup, c'est une initiative bienvenue. La dernière fois qu'ils ont pris la parole, c'était pour demander le retour de l'alcool dans les stades. Ça, c'était un peu ridicule. Là, je pense qu'ils jouent leur rôle, effectivement, d'interpeller le gouvernement sur...
Un rôle un peu courageux dans le fonctionnement des institutions de la Ve République, où un groupe ultra-majoritaire, généralement, on l'entend pas beaucoup.
C'est pour ça que je prends la peine de saluer, parce que c'est vrai qu'on les moque souvent. Là, c'est utile, je crois. La question, c'est que, si, effectivement, il faut prendre la parole. Moi, je vois qu'il y a le G7 à Biarritz, en plus la France est pays hôte, c'est peut-être un moment clé. Voilà. Mm-hmm. Comment recevoir la Chine si elle est en train de massacrer à Hong Kong. Mais je rejoins Georges-Marc Manabou, c'est quand même, vu la situation, le poids de la Chine, c'est très difficile d'imaginer des sanctions ou des annonces qui peuvent être dissuasives. Mais je crois que la clé serait d'annoncer et de s'y tenir. Le pire serait de soit de ne rien dire, soit d'attendre.
Georges-Marc Benhamou, vous avez par le passé été un peu à l'oreille des présidents de la République. Est-ce que vous diriez aujourd'hui à Emmanuel Macron qu'il faut qu'il prenne la parole ?
Mais je pense qu'historiquement, même si là aussi je ne suis pas un spécialiste, historiquement, se coucher devant la Chine, ne rien dire, hein, en gros, sur le plan même de la stratégie commerciale, ne parlons pas de la morale, n'a jamais rien rapporté.
Ça veut dire que ce n'est pas une réelle politique très efficace.
Voilà. Les gens qui, je ne sais pas ce que c'est l'Allemagne, ou qui se sont moins couchés que les Français, ont un commerce extérieur avec la Chine, puisqu'il s'agit de ça, il ne faut pas être naïf, qui est bien plus développé. Donc le côté « je me couche, ça ne marche pas ». Et finalement, sur le deuxième point, je m'étonne qu'il n'y ait que 20 députés finalement de la République en marche.
Oui, on pourrait le dire dans ce sens-là.
Je m'étonne.
Sur 300.
Sur ces gens qui respirent les droits de l'homme comme ils
On pourrait aussi entendre les autres groupes politiques, Julien Bayou.
Voilà, qui prônent l'avènement d'un monde nouveau. Pourquoi les Verts ne viennent pas? Pourquoi les autres ne viennent pas? Pourquoi l'Assemblée nationale ne prend pas le ton de Victor Hugo? Pourquoi la France n'a pas la voix de Victor Hugo ou de Gaulle? On n'a pas d'armée aussi puissante que les États-Unis ou que la Chine, on n'a pas de PIB, mais on a des valeurs. On a cette ferveur 19e-iste qui héritait, je l'ai dit, d'Hugo et poursuivi par De Gaulle. De Gaulle, il avait cette voix, on n'avait pas une grande puissance économique. Donc il reste que ça, effectivement. Et peut-être que ça peut marcher.
Ça, plus l'ONU, plus peut-être après effet boule de neige.
Parce que, sauf à être absolument naïf, ça risque de finir en carnage.
C'est ce que vous prévoyez, on va dire, pour rester français. Jade Zaheb, en tout cas, effectivement, c'est ce qu'on peut redouter. Jade Zaheb.
Oui, complètement. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois qu'il faut rappeler dans la tribune que signe M. Cesarini et 19 autres députés, ils disent qu'il n'est pas question ici de donner des leçons à quiconque. Je crois que c'est important de dire aussi que chaque État, bon alors là en l'occurrence il y a un sujet sur le lien entre la Chine et Hong Kong du point de vue politique et de l'acceptation par les Hongkongais de la citoyenneté que la Chine leur offre, mais il n'est pas question pour la France d'imposer quoi que ce soit de manière unilatérale. Et Jean-François Cesarini, par ailleurs, c'est intéressant, je l'ai noté, il n'est pas présent du groupe d'amitié, puisque Hong Kong n'est pas à proprement parler...
compliqué. C'est France-Taïwan.
Voilà, c'est ça.
Amitié France-Taïwan.
Et par ailleurs, alors je rajoute un élément, il est président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de l'économie. Je voulais en venir à économie, parce qu'en fait, le sujet a été mentionné par Monsieur Benhamou à l'instant. Le sujet est là. Hong Kong, c'est le premier excédent commercial de la France dans le monde, après le Royaume-Uni. Donc, il y a un sujet économique. Je crois que c'est la première ville aussi d'Asie en termes de population française. Je crois 20 000 Français qui habitent à Hong Kong. Donc, le sujet est clairement de première ampleur. Et je crois effectivement que là-dessus, ces députés-là ont raison. Néanmoins, quand je lisais la tribune, à un moment, ils disent aussi « Personne n'est expert en ce domaine et l'expérience démocratique hongkongaise peut également nous permettre de progresser. » Ça m'a fait penser aux gilets jaunes, puisqu'au moment où il y a eu en France un certain nombre de dérapages, certains diront dérapages, d'autres diront doctrine colère, de maintien de l'ordre à revoir, eh bien on a aussi aussi des critiques de l'étranger nous disant « Regardez, la France, pays des droits de l'homme, n'est pas capable de garantir la liberté de manifester. » Donc je crois prudence et ce fameux « en même temps » qui caractérise la majorité.
C'est un équilibre difficile, mais vous nous dites ce soir pourquoi il n'y a que 20 députés de la majorité qui le signent, et on a dans le même temps, justement, aujourd'hui, La députée du secteur, celle qui est élue des Français qui vivent en Asie, Anne Genté, députée LREM, qui nous dit qu'elle n'a pas signé le texte, que c'est, je la cite, c'est très facile de dénoncer ce qui se passe depuis notre fauteuil. J'ai trouvé le ton de cette lettre beaucoup trop donneur de leçons. Il faut être beaucoup plus subtil avec les Chinois. Elle est, c'est quand même c'est quelque chose. Anne Genté, députée des Français. Et là, on pourrait tomber de la chaise, non?
Et on pourrait demander au président de groupe, aux instances, ce qu'il pense de cette déclaration qui a une portée officielle. C'est un député de la nation qui parle, qui représente en tout cas ces Français de l'étranger. Qu'est-ce que pensent les gens du Nouveau Monde de la République En Marche? Moi, j'aimerais bien savoir.
Et le Quai d'Orsay aussi. Et le Quai d'Orsay. Le Drian qui est absent.
Qu'on n'a pas entendu non plus, Julien Bayou.
Et on peut préciser, même si elle a démenti, qu'il y a une explication qui était avancée, c'était le fait qu'elle craigne pour son visa. Oui. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que la députée des Français de l'Asie, Français et Françaises,
elle a démenti dans la journée, mais effectivement...
pourrait se faire empêcher de voyager en Chine. Donc ça, vraiment, ça, pour le coup, c'est quasiment une atteinte à la propre souveraineté de la France. Moi, bon, vous voyez le verre vraiment à moitié vide sur le fait qu'il y ait seulement 20 députés. Vous avez raison. Moi, je voulais saluer que pour une fois, ils sortaient
si
un peu de leur...
Si on sort simplement du débat de l'Assemblée nationale, pour conclure, avant qu'on passe à un deuxième thème dans les informés ce soir, le fait que ce soir, Donald Trump, même si, évidemment, les déclarations de Trump sont toujours à prendre pour ce qu'elles sont, elles sont des fois contradictoires, mais qu'il appelle au calme, le fait que Michel Bachelet, à l'ONU, dise qu'il faut quand même une enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, est-ce qu'on n'a pas quand même enfin un petit réveil diplomatique, un sursaut diplomatique, Julien Bayou?
Ben, c'est très tard, et puis c'est parce que les images en provenance de Hong Kong sont, nous alertent.
Et c'est un petit espoir, peut-être.
Moi je maintiens qu'il n'est pas possible de recevoir la Chine
à Biarritz
dans quelques semaines, maintenant, dans quelques jours,
même,
dans ces conditions. Si.
En tout cas, Trump et l'Europe ont intérêt à ce que ça se calme. Effectivement, personne n'a intérêt à ce que la confrontation aille jusqu'au bout, parce que, comme on disait tout à l'heure, si la Chine fait un nouveau Tiananmen puissance au carré, là il sera bien ennuyé car il ne répondra pas, sauf à déclencher une guerre mondiale. Non mais on voit dans quel engrenage on peut être pris.
On voit l'engrenage et le risque que cela peut entraîner. On va parler d'un sujet qui finalement, quand on le met en parallèle, est beaucoup plus léger. La survie de la droite républicaine en France, c'est juste après le rappel de l'info.
C'est très important.
C'est très important, mais disons qu'il y a moins de vie en jeu. 20h20, on y revient juste après le rappel de l'info avec Thomas Benesch.
Après avoir disparu pendant 10 jours en Malaisie, le corps sans vie de la jeune Nora, 15 ans, a été retrouvé aujourd'hui. Ses parents l'ont formellement identifié. Nora, adolescente franco-irlandaise, était en Malaisie pour y passer des congés avec sa famille. Un livreur de repas à domicile de la plateforme Uber Eats, entendu par la police à Bordeaux, on le soupçonne du viol d'une cliente à Paris. C'était dans la nuit du 5 au 6 août. Le suspect a été arrêté hier en Gironde. 38, c'est le nombre d'enfants vivant dans l'Aude, dont le taux d'arsenic dans le corps est supérieur à la moyenne. Chiffre communiqué ce mardi par l'agence régionale de santé en Occitanie. Ces jeunes habitent tous dans la vallée de l'Orbiel, à proximité de l'ancienne mine d'or de Salsigne. Lors des inondations d'octobre dernier, l'eau aurait charrié des déchets toxiques venant de ce site fermé depuis 2004. Le Sénat italien a tranché. Le débat sur la motion de censure contre le gouvernement aura lieu mardi prochain, le 20 août. Cette motion est déposée par la Ligue, formation d'extrême droite. Son chef de file, Matteo Salvini, souhaite renverser la coalition au pouvoir, convoquer de nouvelles élections, à l'issue desquelles il espère gouverner seul. Enfin, Donald Trump l'affirme, l'armée chinoise est déployée à la frontière avec Hong Kong. Le président américain appelle tout le monde au calme. Hong Kong est en proie à des manifestations anti-pouvoir toujours en cours ce mardi. Et les contestataires demandent plus de démocratie.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir, Jade Zahab, le fondateur du Parlement des étudiants, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et Georges-Marc Benamou, journaliste et romancier. Votre dernier livre, Le Général a disparu, sort demain chez Grasset. On va parler d'un sujet qui vous passionne tous les trois, je le sais, la vie politique française, et notamment eh bien la droite, l'avenir de la droite, la course à la présidence du parti Les Républicains. Les candidatures sont closes ce soir. 3 candidats. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense sur le résultat final. Christian Jacob est favori, 2 challengers, Julien Aubert, qu'on pourrait présenter comme souverainiste, et Guillaume Larrivé, plus libéral. Vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de suspense. Jade Zahab.
Non, très peu. Christian Jacob, c'est le président des Républicains à l'Assemblée, du groupe parlementaire Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il a le soutien, je crois, de Gérard Larcher, d'un certain nombre de ténors, dont Brice Hortefeux, Nadine Morano. Voilà, rien que de dire ces noms. On a la démonstration que finalement cette élection ne changera rien. Puis quand on voit les soutiens de Monsieur Jacob et sur la ligne, mais voilà, à mon avis, très peu de suspense. Mais malgré tout, il faut noter. On parlait dans la transition plus de démocratie. Il y aura au moins une élection et ça permettra à la société entière de redécouvrir la droite, parce
une
que
élection
finalement,
pour les militants. Hein,
c'est pour les militants, mais peut-être que l'idée, l'objectif sera pour ces candidats-là, d'exposer un projet, puisque la droite, elle est complètement absente de la sphère politique depuis l'élection présidentielle. Donc, c'est bienvenu.
Moi, ça me fait penser à ces grands shows, là. Vous prenez des billets, vous attendez depuis des années pour voir, mettons, Johnny Hallyday ou Céline Dion. Hein.
Oui.
Et puis finalement, on vous dit attendez, on a des sosies là. Hein, on vous promet Sarkozy, on vous promet Fillon, même Jacques Chirac. Souvenez-vous, Jacques Chirac. Mmh. Et puis vous retrouvez avec Monsieur Christian Jacob, méritant, honnête, agriculteur, avec Monsieur Larrivée, dont personne ne connaissait il y a quelque temps, et avec Monsieur Julien Aubert, méritant là aussi, énarque, qui n'a pas une tête d'énarque, avec un discours très très à droite, c'est élu du Vaucluse, pas menacé par le Front National, c'est de qui se moque-t-on, quoi. Quand on dit 130 000 adhérents
du Parti des Républicains,
de qui se moque-t-on?
Là encore, effectivement, les chiffres...
Ne riez pas, vous, monsieur l'écologiste. Non, mais de qui se moque-t-on, je veux dire. Donc, au fond, Christian Jacob, je vous l'annonce et je vous le confirme, vous avez raison, il va gagner.
Mais ça va changer quoi?
Ça va rien changer. Il va être le syndic de faillite, finalement. Et quand je faisais du droit, dans une entreprise en faillite, il y a deux voies. Soit vous faites la liquidation judiciaire, quoi, c'est fini. Soit vous essayez une continuation.
C'est un
plan de continuation avec ce qui reste, comme vous dites. Alors il va essayer un plan de continuation en attendant qu'un sauveur arrive. Peut-être que Sarkozy va être...
Que le sauveur n'a pas le droit de participer, puisque l'engagement pour participer à cette élection, c'est de ne pas être candidat à la présidentielle.
Voilà.
Donc là encore, on est peut-être aussi, on cherche à se protéger. Non, Julien Bayou, quel est le regard?
Pour moi, c'est compliqué. Moi, je suis porte-parole d'un parti.
Oui, justement, permet de taper sur l'adversaire,
ou l'ambulance. Je vais pas commenter la vie interne d'un mouvement. Moi, j'ai pas de préférence entre les trois candidats, même s'il y en a qui racontent vraiment n'importe quoi, encore plus que les autres. La question, c'est pour faire quoi? Voilà, ça, pour le coup, là, je peux en discuter. Il y a trois droites en France, c'est la droite extrême, la droite libérale, on va dire, pour aller vite, qui est au pouvoir, celle de Macron. Et puis la droite conservatrice que Wauquiez a tenté de via Bellamy de faire fructifier. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'en fait finalement le terreau de la droite, il est très très occupé d'un côté par l'extrême droite qui est multifacette et de l'autre côté par Emmanuel Macron. Moi je vois deux exemples probants, frappant sur le CETA, sur le Mercosur, sur les traités commerciaux. Aujourd'hui, vous aurez certainement des députés LR qui vont vous dire c'est scandaleux, faut protéger les agriculteurs. Ce sont eux qui les ont négociés pendant les 10 dernières années, sous Sarkozy, évidemment. Sur les privatisations, aéroport de Paris, vous avez des députés qui ont signé contre la privatisation. Mais s'ils étaient au pouvoir, ils la feraient. C'est dans leur logique, c'est vraiment leur logiciel. Donc la question, c'est quoi l'avenir de la droite en dehors de En Marche ou de l'extrême droite? Et ça, c'est très très inquiétant.
Où est la voie? Existe-t-il encore une voie, Jadzab? Je vois que Jean-Marc Bellamou dit non. Y a-t-il une voie entre...
Pour moi, qui est l'enjeu majeur du 21e siècle, l'écologie, tout le monde s'y met, en vrai, en faux, de manière sincère ou non. Sauf la droite, pour le coup. Je n'ai pas entendu chez Jacob ou tous les autres un traître mot sur l'écologie.
Ça viendra peut-être après, une fois que Jacob sera... Mais bon, effectivement, pour l'instant, on ne nous a pas entendu. Jadzab.
Mais là-dessus, vous disiez effectivement que les... Alors moi, je ne crois pas à la renaissance des Républicains tels qu'ils sont aujourd'hui, puisqu'effectivement, ils sont pris en étau entre Emmanuel Macron, qui incarne un peu vous disiez droite libérale, moi j'ai envie de dire cette espèce de social-démocratie et la droite extrême qui est sur des positions très très identitaires. Moi quand j'ai lu j'ai retrouvé un certain nombre d'interviews de Guillaume Larrivée qui dénonce l'immigration de masse, le chaos migratoire, les territoires occupés qui cernent aujourd'hui la nécropole des rois de France à Saint-Denis, qui propose zéro regroupement familial et la suppression du droit du sol. Quand j'ai vu que c'était les Républicains, je me suis dit, quel Républicain ? Parce que effectivement, on a un certain amalgame qui peut être fait avec certaines idées. Julien Aubert, il a créé le mouvement Oser la France au sein des Républicains, puisqu'il y a des mouvements internes. Il se définit lui-même comme la droite populaire, républicaine, patriotique et eurolucide. Bon, alors derrière les mots, il faut voir ce qu'on met derrière, très certainement. Et vous mentionniez le CETA, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Un autre défi, un autre moment où on va voir quelle est cette droite, en tout cas du point de vue social, à la rentrée, c'est l'examen par le Parlement du projet de loi bioéthique. Alors, on sait que l'examen, le gouvernement souhaite en tout cas ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes ou aux femmes seules. Très clairement, là, sur les trois candidats.
Sur ces sujets-là, effectivement, il y a des.
Voilà, Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert sont tous les trois d'accord et sont contre cette ouverture de la PMA aux couples de femmes. Donc, on va voir comment la droite va se positionner. Mais...
Alors, on va. Parce que je vois que Georges-Marc Benhamou a pris beaucoup de notes, donc je pense qu'il a encore plein de choses à nous dire sur la droite. On va en reparler juste après les infos qui arrivent sur France Info. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie des informés.
C'est décidé. À la rentrée, je fais confiance à O2. Ranger, laver, repasser, faire les courses et le dîner, leurs professionnels s'occupent de tout. Grâce à O2, je respire et je bénéficie de 50% de crédit d'impôt. Vous aussi, faites confiance au numéro 1 en France des services à la personne. Rendez-vous sur O2.fr.
Et moi, je vois la vie en mieux. O2.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing. Le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Et on retrouve Élodie Calac pour les prévisions pour demain.
De la pluie pour le nord-ouest demain, du soleil ailleurs. Sur la moitié sud, la Bourgogne, la Franche-Comté et l'Alsace, ce sera très ensoleillé. Le bémol viendra du vent, encore marqué sur le sud-est. Entre les Charentes, le centre, les Ardennes et la Lorraine, un ciel nuageux avec une petite onde dès l'après-midi. Des éclaircies en région parisienne, plus timide l'après-midi avec quelques averses. Et puis sur le nord-ouest, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, une perturbation apportera du vent, de la pluie, surtout le matin sur la Bretagne. Pas plus de 6 degrés à Aurillac le matin, 8 à Reims, 10 à Rouen, Dijon, Limoges, 13 à Bordeaux, 14 degrés à Paris, 21 à Nice, l'après-midi 18 à 21 degrés près de la Manche, 21 à 28 degrés ailleurs et encore 28 à 31 autour de la Méditerranée.
Merci d'écouter France Info, très belle soirée, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et c'est le retour d'Amaya Cazenave pour l'info.
Il s'agirait du 88e féminicide depuis le début de l'année. Une femme de 71 ans a été tuée à coups de couteau hier soir en pleine rue à Port-Vendres au sud de Perpignan. Son mari de 77 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Mais pour l'instant, il reste mutique. Le couple était en train de se séparer depuis 3 semaines. La préfecture de l'Ardèche recommande d'éviter le secteur de Bannes dans le sud du département. Un feu de forêt s'est déclenché dans une zone très difficile d'accès vers 17h30. 3 hectares ont déjà brûlé. 60 sapeurs-pompiers sont engagés sur place. Demain, le massif des monts Toulonnais au sud du département du Var sera interdit d'accès, placé en risque incendie extrême. Ce niveau de vigilance n'a plus été atteint dans le département depuis l'été 2017. Même chose pour les massifs des Bouches-du-Rhône, car les risques de feux de forêt y sont très élevés. Le ténor et chef d'orchestre espagnol Plácido Domingo, accusé de harcèlement sexuel par 9 chanteuses et une danseuse, l'opéra de Los Angeles, dont il est le directeur général, va engager un avocat pour enquêter sur ces allégations. Cette mystérieuse explosion en Russie, des responsables ont reconnu l'explosion qui avait fait 5 morts le 9 août dernier à proximité d'Arkhangelsk dans le nord du pays, était bien de nature nucléaire. Le test d'un missile à propulsion a mal tourné, mais les autorités nient pour l'instant l'existence d'une grave contamination. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Vyacheslav Soloviev, directeur du centre nucléaire fédéral russe, a confirmé l'échec du test d'un missile équipé d'une source d'énergie utilisant des matériaux radioactifs, incluant de la matière fissile et des radioisotopes. Pour les experts occidentaux, comme pour les médias russes, il pourrait s'agir du missile de croisière Bourevestnik, oiseau de tempête en français, que Vladimir Poutine avait décrit en début d'année comme une arme de portée illimitée et capable de franchir tous les systèmes d'interception. Cette explosion a causé une hausse temporaire de la radioactivité qui réussissent, selon les autorités, à retrouver un niveau normal en quelques heures. La navigation, la pêche et la baignade sont toutefois interdites pour une durée de 1 à 3 mois dans certaines zones. Et si une enquête doit déterminer les causes de l'accident, Moscou a souligné que les tests de ces nouveaux armements seront menés à bien. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Info.
En Italie, le débat sur la motion de défiance déposée par la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini contre son propre gouvernement aura lieu le mardi 20 août, décision du Sénat italien. Le Sénat a donc refusé la demande de la Ligue d'organiser ce débat dès mercredi. Il est 20h33, c'est la deuxième partie des informés. Tout de suite avec vous, Nicolas Crozet.
Merci à Maya Cazenave.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Crozel.
Les informés ce soir, c'est Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Jade Zahab, fondateur du Parlement des étudiants, et Georges-Marc Benamou, journaliste et auteur du Général a disparu, qui sort demain chez Grasset. Avant les infos, on parlait de l'avenir de la droite. Quelle place, quelle ligne? Je vous ai vu prendre beaucoup de notes, Georges-Marc Benamou. Votre regard, vous qui venez d'écrire sur De Gaulle, est-ce que De Gaulle reconnaîtrait ses héritiers?
Non, 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 bien sûr que non. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'espace politique pour la droite, hein, coincé entre la droite libérale de Macron et la droite identitaire ou l'extrême droite. Mais il fut, et puis par ailleurs, deuxième élément, on sait tous, les leçons de René Raymond, les trois droites, etc. Mmh. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore plus de droites. Il y avait les, ça va des démocrates chrétiens aux identitaires, aux centristes, aux libéraux, aux nationaux libéraux, etc. Mais il fut un temps quand même. Vous aviez des génies ou des prestigitateurs de la politique qui arrivaient à tous les mettre dans la même auberge espagnole.
À les agréger.
C'est-à-dire que, finalement, le grand génie de Chirac, qui a été facho Chirac et qui a aussi parlé du travailisme à la française, c'est d'avoir mis tous ces gens dans le même poulailler. Mmh. La grande réussite, pendant 12 ans, enfin, sauf les baladuriens. Le grand génie, la grande bataille, la grande victoire de Sarkozy, c'est d'avoir fédéré, même si lui a un tempérament de finalement de ratsoc, d'avoir roulé des mécaniques pour avoir l'extrême droite avec Buisson, et d'être, de séduire avec sa femme certains intellectuels de centre-gauche, les démocrates chrétiens, et ça allait de Boutin à Cohn-Bendit, si je puis dire. Donc, à Kouchner. Donc, dans ce temps-là, il desserrait les taux par talent, par mensonge, par prestidigitation, en tout cas par une sorte de synthèse politique à eux. Aujourd'hui, il n'y a ni message, ni homme capable de porter cette synthèse.
Ils sont écartelés face au puzzle.
Deuxième chose, après Julien Bayou. Il faut dire à nos électeurs, on en parlait avec Bayou, on dit tout. Finalement que Jacob, il marche pour Baroin.
Oui.
On va vous dire pour ça. Et la deuxième info, c'est que tout ça, la machine Jacob qui sera élue va pousser Baroin, tout ça pour faire une machine anti-devinez qui, Xavier Bertrand, qui dans le Nord, à sa manière, hors des Républicains, avec de véritables réseaux et des réussites locales, engrange, mine de rien, sans rien dire.
Il s'est mis hors du parti, Xavier Bertrand, avec effectivement peut-être une écurie qui se prépare. Julien Bayou, on le voit bien, les ténors sont pas dans cette bataille, ils ont même pas le droit d'y participer. Alors bon, Bertrand, il est plus chez les Républicains. Mais on voit bien que ce sont des seconds couteaux qui vont occuper l'espace pour préserver l'avenir. On peut le voir comme ça, Julien Bayou, puis après Zad.
Je pense que l'image du syndic de faillite est quand même pas, est pas à éviter. Elle est pas mal. Moi, j'étais très surpris par la démission immédiate de Valérie Pécresse, qui a quitté les Républicains, alors que ça reste vraiment son courant de pensée.
Et puis que justement, la place était libre, si Wauquiez s'en allait alors qu'elle était anti-Wauquiez.
Donc effectivement, peut-être que ceux qui se disent « je vais tenter ma chance en 2022 » se disent « j'ai plutôt intérêt à ne pas être président du parti, et peut-être même pas dans le parti tout court ». Bon, ça dit, et on en a un peu parlé, quelque chose de l'état de la cette droite. Je pense que ça dit aussi quelque chose du clivage gauche-droite, parce qu'effectivement, ça vient quand même après le fait que, on parlait des privatisations ou des traités Mercosur. Ils ont aussi été mis en œuvre par la social-démocratie, et donc il y a cette confusion.
Ça, c'est le génie de Macron, d'arriver à. Enfin, le génie, ou en tout cas.
Oui, mais
le génie du mal, c'est à vous de me le dire. Mais en tout cas, on a une polarisation du centre gauche et du centre droit. Et du coup, ça.
Oui, c'est ça. Mais je pense que cette extrême droite, une sorte de cercle de la raison, en gros, les productivistes, la croissance, avec plus ou moins d'inégalités. Et puis, je maintiens qu'il y a un troisième paradigme qui émerge. En tout cas, c'est notre travail d'essayer de le faire émerger. C'est l'écologie. Et là, la droite est vraiment en panne sèche. Et puis, enfin, il y a une dernière réflexion sur le rôle des partis, des mouvements qui sont très décriés. C'est pour ça peut-être que personne ne se précipite pour diriger un mouvement, quel qu'il soit. C'est pas évident quand ça fonctionne. C'est encore plus compliqué quand ça fonctionne pas, comme aujourd'hui. Mais on a besoin de ces partis, de ces mouvements pour organiser le collectif.
La prochaine étape, une fois que cette élection interne sera tranchée, c'est les municipales. C'est à peu près tout ce qui reste aux Républicains aujourd'hui. Quelques grandes villes, Bordeaux, Nice, il faudra régler le Canis en plus, Ciotti-Estrosi. C'est ça l'urgence ?
Mais là-dessus, ce qui fait la force historique du parti Les Républicains, anciennement UNP, anciennement RPR, c'est le maillage territorial et l'ancrage territorial que n'a pas La République En Marche. Donc là-dessus, on peut penser qu'effectivement, le parti que dirigera, a priori, on ne prend pas de risque en le disant, Christian Jacob, a là-dessus une longueur d'avance. Contrairement, pour ajouter un élément au débat, j'ai l'impression que la droite croit encore, est-ce un héritage du général de Gaulle, je ne le sais pas, à l'incarnation personnelle. Vous disiez à l'instant, les partis, Julien Bayou, vous disiez les partis sont importants pour le débat d'idées. Hélas, je ne vois pas, peut-être que ça arrivera, l'élection est le 12 octobre, de débat sur les projets qu'ont les candidats pour la droite. Donc, premièrement, à mon sens, il faut en finir avec ce dogme de l'incarnation et de l'homme providentiel. Mmh. Et tout cela est, j'allais dire, nourri par ce que j'ai envie d'appeler le phénomène de primérisation de la vie politique.
Mais justement, ils veulent y revenir, ils sont certains. Voilà, parmi les trois candidats, ils sont pas très chauds pour refaire une primaire.
Ils sont pas
à la présidentielle,
pour la primaire parce qu'on est dans des logiques d'écurie avec des mouvements et chacun. Alors chacun incarne son propre mouvement, mais chacun a du mal à rassembler la famille. Donc on est en fait écartelé entre ce nouveau monde qu'ils ont envie d'incarner, parce que forcément ils ont des idées politiques, mais aussi cet héritage. Et moi j'aurais été intéressé d'avoir l'avis de Monsieur Benamou sur la convocation permanente du gaullisme. Est-ce que finalement c'est vraiment ça encore le gaullisme aujourd'hui?
On va terminer là-dessus ce chapitre politique, Jean-Marc Benamou. Le gaullisme à toute épreuve.
Mitterrand disait, c'était un secret pour personne, le gaullisme il est mort avec le général de Gaulle. Je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure ou si vous voulez qu'on en parle maintenant.
On parlera dans la deuxième partie quand on est...
Il est mort avec le général de Gaulle et le pompidolisme n'est pas du gaullisme. Donc ça fait longtemps que c'est fini tout ça.
Donc ils se trompent quand ils invoquent le gaullisme en fait.
C'est de l'habillage, c'est de la propagande, c'est de la détournement d'héritage ou de cadavre. Enfin, c'est une banalité.
Est-ce que je vous ai compris tous les trois, si vous êtes très peu optimiste sur la renaissance des Républicains ou d'un courant de droite?
On verra le règlement de faillite ou pas, ou la continuation d'activité.
Il faut néanmoins dire qu'il y a au sein des Républicains des jeunes députés qui incarnent cette nouvelle génération, on pense à Maxime Minot, Robin Reda, Paul-Henri Dumont, qui sont des jeunes députés qui n'ont pas encore 30 ans, et eux peuvent être source de renouveau au sein de ce parti.
Vous le disiez à l'instant, l'objectif de Jacob ou de celui qui sera élu, c'est de sauver les meubles. C'est-à-dire que le maillage territorial dont vous parlez, qui est considérable, il faut le sauver. Et la vraie question, c'est est-ce que Macron à Marseille, à Nice, où on n'y comprend plus rien, et dans d'autres villes à Bordeaux, gagnera? Je pense qu'il ne gagnera pas à Bordeaux et que le candidat Juppé Bayrou tiendra contre le candidat macroniste. Donc, quel sera? Je pense que Monsieur Griveaux, l'inénarrable Monsieur Griveaux, est assez mal parti, c'est une banalité de le dire, à Paris. Je pense qu'on n'y comprend rien à Nice. Et que Estrosi se demande même s'il a besoin de la casaque Macron. Nice, je suis niçois, c'est une ville de droite quand même.
De tout ça, finalement, on pourra tirer quelques conclusions après les municipales, peut-être pour essayer de voir si le paysage politique s'est clarifié. On se retrouve dans un instant pour la suite des informés après le rappel de l'info. C'est Thomas Bénèche.
Un feu de forêt en cours dans le sud de l'Ardèche à Bannes. Il s'est déclaré au milieu d'un massif forestier dans une zone difficile d'accès. Une soixantaine de pompiers sont mobilisés. 4 avions bombardiers d'eau de premier largage ont pu être effectués vers 18h. Dans le Var, les Monts Toulonnais interdits d'accès toute la journée de demain. La zone est placée en risque incendie extrême. Ce n'était plus arrivé depuis l'été 2017. Pour les Bouches-du-Rhône, pour prévenir le moindre feu, tous les massifs seront également demain fermés au public. La mortalité sur les routes en juillet dernier est stable par rapport à la même période en 2018. 328 personnes décédées, indique aujourd'hui la sécurité routière. A noter toutefois la hausse du nombre de blessés sur les routes, plus 3,5% sur un an. L'appel est lancé par le HCR, l'agence onusienne pour les réfugiés. Les quelques 500 migrants secourus en mer Méditerranée doivent être autorisés à débarquer et à recevoir l'aide dont ils ont besoin. Le bateau humanitaire de l'ONG espagnole Open Arms transporte 151 réfugiés, l'Ocean Viking 356 autres. Aucun pays n'accepte pour l'instant de les accueillir. La Coupe de la Ligue de football avec en ce moment 11 rencontres disputées dans le cadre du premier tour de la compétition. Le Mans mène face à Lorient 2 buts à 1. Châteauroux mène sur Niort 1-0. À suivre à partir de 21h, 3 Lens.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
On va sortir un instant de la politique dans les informés, même si on y reviendra en fin d'émission, pour parler du livre de Georges-Marc Benamou qui est avec nous. Le général a disparu, qui sort demain chez Grasset. Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et Jade Zahab, fondateur du Parlement des étudiants. On va revenir un instant sur le drame d'hier à Goncoutainville, la mort de ses trois enfants dans le naufrage d'un petit bateau à moteur, pas très loin du rivage d'ailleurs. Mais voilà, la mer était agitée, les conditions étaient dangereuses, les personnes à bord ne maîtrisaient visiblement pas le bateau, même si évidemment le but n'est évidemment pas de les accabler, ils ont perdu leurs enfants dans ce drame. Ça pose toutefois la question de la sécurité pendant les vacances. On ne peut pas tout faire parce qu'on est en vacances. Écoutez le témoignage de Franck qui habite à Goncoutainville et qui fait lui du bateau depuis qu'il a 5 ans.
On devrait pouvoir arrêter ces gens avant qu'ils puissent faire une catastrophe avec des enfants à bord. Ça sert à rien de les accabler parce qu'il ne faut pas en rajouter. Mais je pense que c'est un manque d'expérience et de connaissance de la mer. C'est un bateau qui n'aurait pas dû être mis à l'eau hier. Parce qu'en plus, on était sur le montant, le vent forcissant. Et on sait très bien que là, plus la mer monte, plus les vagues grossissent. Voilà, moi, j'ai vu les vagues. Bon, mais moi, hier, j'y serais pas allé avec mon bateau.
Voilà, un habitant du coin qui dit qu'il n'y serait pas allé. Évidemment, le but, c'est pas d'accabler ses pauvres parents. Mais ça nous interroge sur notre comportement à nous, peut-être, en vacances. L'hiver, on voit, on a des alpinistes quasiment en tongs sur le Mont Blanc. L'été, on a des drames de ce type. Est-ce que ça dit pas quelque chose de notre mentalité? On est en vacances, ça dure pas longtemps. Et quel que soit le contexte, on va faire ce qu'on a prévu de faire. Zadjab.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Et j'écoutais la semaine dernière un psychiatre qui a fait une thèse sur le droit du travail et sur la façon dont nos sociétés envisagent le travail. Et on est dans une époque où effectivement, on se dit, je travaille toute l'année, je travaille. Pendant 2 semaines, je ne fais plus rien, je me lâche. Et ensuite, je reprends, je travaille.
Peut-être faudrait-il... Et donc, qu'il fasse beau ou pas beau, j'ai prévu d'aller faire du bateau, je vais faire du bateau.
Peut-être mentalement même, il expliquait que le cerveau, pour se reposer, ça ne peut pas fonctionner de travailler toute l'année et 2 semaines s'arrêter pour reprendre. Il disait qu'effectivement, il faut qu'on arrive dans notre vie et ça pose la question du droit du travail. Comment fait-on évoluer le travail? Certains diront c'est le nombre d'heures qu'on y passe. Certains diront c'est la qualité du travail qu'on fait et l'accompagnement qui peut être apporté. Mais effectivement, ça pose la question de comment est-ce que notre société envisage d'une manière générale le travail et puis les vacances. Et puis, j'allais dire de manière très pratico-pratique, appeler à la vigilance permanente. J'ai noté un chiffre qui n'est pas directement en lien avec cet événement, mais les accidents domestiques, par exemple, représentent 61% des accidents en France.
Non, mais
donc quand on est dans la sphère privée ou quand on est en vacances ou chez soi, on a tendance à se dire qu'on est moins vulnérable. Et bien en fait, on est autant vulnérable. Donc là-dessus, évidemment, il ne s'agit pas de blâmer les parents qui sont dans une détresse inqualifiable, mais effectivement d'appeler, j'allais dire, dans un premier temps à la vigilance collective. Et puis à court terme, malgré tout, vous disiez qu'on ferait de la politique à la fin de l'émission. C'est un sujet politique.
Mais tout est
sur
politique.
Comment est-ce, philosophique, certains diront, comment est-ce qu'on envisage à long terme et dans notre pays les travailleurs, les vacances, le repos, etc. C'est un vrai sujet.
Et sur cette antenne, la semaine dernière, on donnait la parole sur France Info au porte-parole des sapeurs-pompiers de France qui nous expliquait que les noyades ont augmenté chez les enfants de 0 à 6 ans de 96% en 3 ans parce que les parents sont absorbés par leur smartphone sur la plage et ne regardent même plus leurs enfants. Noyade, ça ne veut pas forcément dire décès, hein, puisque heureusement une noyade sur 3 qui se conclut par un décès. Georges-Marc Benamou, on a là quand même quelque chose sur notre prise de conscience.
Il y a quelque chose, on a beau parler d'écologie, de nature, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est des urbains qui sortent de la ville tout puissant, qui n'écoute pas la sagesse élémentaire. J'ai écouté des reportages du vieux pêcheur ou du vieux marin local qui dit non, là-bas, il y a des vagues blanches, c'est pas terrible, ne sortez pas. Enfin, c'est l'élémentaire écoute de la nature, des nuages, ce lâcher prise par rapport à la vie de dingue. Donc, on a des urbains nietzschiens sans savoir qui sont dingues, qui sont dans la surpuissance et qui provoquent, effectivement, on va pas les accabler, ceux-là ou d'autres, ceux dont vous racontez.
Dans ce cas précis, on sait pas exactement d'où ils étaient, tout ça.
On n'y croit pas d'abord. Et effectivement, c'est attesté par des gens, des sauveteurs, des maîtres nageurs qui vous expliquent ça.
Une campagne nationale d'information sur les plages pour alerter.
Il y a quelque chose de la perte des valeurs et d'une certaine sagesse du rapport à la nature, à l'écoute de la nature.
Julien Bayou.
Oui, alors peut-être pour faciliter le débat, mais moi j'ai du mal à partir d'un fait divers.
Non, mais en plus, l'enquête est en cours et on n'a pas tous les détails, mais voilà.
En tirer des leçons sur notre société. Donc, je ne ferai pas le lien immédiat. En revanche, ce que vous dites, Jada, sur le rapport au travail et au temps, moi, m'interpelle, effectivement, parce que on a des élus, et d'ailleurs, ça pourrait être un beau sujet pour plancher si la droite voulait réfléchir à l'avenir de son projet, qui disent valeur travail. Et en gros, à la fin, ça veut dire travailler plus. Mmh. C'est pas ça, la valeur travail. C'est trouver un sens à une émancipation, même, à son activité rémunérée. Et donc, on a une productivité, on le sait, en France, qui est extrêmement importante. En gros, ça veut dire, en gros, une intensité de travail extrêmement forte. Et pourtant, on a pas mal de congés. Hein. Aux États-Unis, c'est plutôt beaucoup moins. Ça serait 10, 11, 12 jours de congés. Et on concentre sur les vacances une énergie incroyable, des réservations, il ne faut pas les perdre. Et du coup, bah, si le temps est mauvais, on va quand même prendre la mer.
D'ailleurs, là, c'est paradoxal, parce que Julien Bayou, quand on interroge les Français sur ce qui compte pour leurs vacances, tiens, un baromètre Odoxa paru en juillet, 79% disent que la sécurité constitue un critère important. Mais la sécurité, c'était dans le cadre de ne pas se faire cambrioler, ne pas se faire agresser. On est même parfois son propre danger, on s'en rend pas compte.
Mais donc, du coup, il y a l'idée de remplir. De remplir les vacances ou remplir, intensifier soit le travail, soit les loisirs. Et il faut, je pense, moi je suis farouchement pour la réduction du temps de travail, qu'elle soit adaptée par semaine ou par an ou même tout au long de la vie. L'enjeu n'est pas de travailler plus, c'est pas vrai. C'est en rien une preuve de bonne santé. On peut trouver une émancipation dans une activité bénévole, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on fait le lien, nous les écologistes, entre un ralentissement, une réduction du temps de travail, qui permet aussi de créer des emplois pour d'autres. C'est le principe de la réduction du temps de travail. Et aussi le revenu de base, qui permet de libérer un temps à soi pour se consacrer à la démocratie, à ses proches ou à rien faire. Ce qui est bien
d'être droit à la paresse. Mais ne rien faire, c'est aussi un vrai sujet. Parce que, alors, je ne suis pas du tout spécialiste ni physiologique. Non,
mais
ni
je l'ai vu comme vous, le spécialiste du cerveau.
Mais ne rien faire.
Qui disait que ne rien faire et son cerveau se reposer, c'est bien.
Quand on ne fait rien, on se sent stigmatisé en France. Alors, je ne vais pas tout de suite dire que quand on parle des chômeurs, on dit qu'ils ne font rien. Mais dans notre société, malgré tout, quand on dit ne rien faire, c'est tout de suite très mal vu. Or, ne rien faire, c'est aussi nécessaire dans la vie d'un être humain. Et c'est... Alors, peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais je crois qu'à long terme, ça pose vraiment la question de comment est-ce que notre société s'envisage elle-même et comment est-ce qu'on... On fait en sorte que cet hyper-travail et cette hyper-vacance ne soient pas qu'on soit plus dans cet excès et qu'on revienne malgré tout. Vous parliez des États-Unis, certes, ils ont moins de congés, mais ils ont des journées beaucoup plus courtes. Donc ça permet, alors je reviens sur, parce que ce reportage m'a marqué, ça permet de donner au cerveau un temps de repos dans la journée. On a essayé sur le temps scolaire pour les enfants, la réforme, on voit bien ce que ça a donné en France, on revient tout de suite à nos enjeux très franco-français, mais il y a une réflexion qui doit s'ouvrir.
Alors je vous propose de ne rien faire pendant 1 minute 30 et d'écouter religieusement le rappel de l'info. Il est 20h50, Thomas Bénèche.
Ouverture d'une cellule d'urgence dans la Manche, cela au lendemain de la mort en mer de 3 enfants. La cellule propose aux témoins de ce drame d'échanger avec des professionnels de santé. Hier, 3 jeunes sont donc décédés dans le chavirage du bateau de plaisance à bord duquel ils se trouvaient avec leurs parents. Une enquête ouverte après le meurtre hier soir d'une résidente d'une maison de retraite à Metz dans l'Essonne. Un homme de 87 ans est soupçonné des faits et placé en garde à vue. Même chose pour une aide-soignante suspectée de non-assistance à personne en danger. C'est jeudi officiellement que vont démarrer les travaux de décontamination des environs de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Depuis ce matin, du matériel dont des tuyaux et des pompes sont acheminés. Objectif, éliminer le plomb présent dans les sols environnants depuis l'incendie partiel de l'édifice. C'était le 15 avril dernier. Ce chantier de décontamination doit s'achever dans 10 jours. Quel avenir pour le gouvernement italien de Giuseppe Conte? Début de réponse le 20 août, mardi prochain. C'est la date fixée aujourd'hui par le Sénat pour examiner la motion de censure déposée par la Ligue, formation d'extrême droite, membre justement du gouvernement. Son chef de file Matteo Salvini veut convoquer de nouvelles élections dans l'espoir d'être majoritaire et de gouverner seul. Le directeur de la prison où s'est suicidé le financier américain Jeffrey Epstein, muté. 2 employés des lieux sont par ailleurs suspendus. Le ministre de la Justice évoquait hier de graves irrégularités dans la surveillance du détenu poursuivi pour des agressions sexuelles sur mineurs. Une affaire qui pourrait avoir des ramifications jusqu'en France.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
avec Jade Zab, fondateur du Parlement des étudiants, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et Georges-Marc Benamou. Et puisque vous êtes là ce soir, Georges-Marc, je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter un instant sur votre dernier livre qui paraît donc demain chez Grasset. On va en parler durant les quelques minutes qui nous restent dans ces informés. On va se replonger d'abord dans l'ambiance de l'époque, puisque le titre c'est « Le général a disparu ». Ça fait évidemment écho à la fuite à Baden-Baden. Alors écoutez d'abord cette archive. Nous sommes le 30 mai 1968.
J'ai reçu de Monsieur le Président de la République la lettre suivante. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, et après avoir procédé aux consultations prévues par cet article, j'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle.
Vous l'avez reconnu tous, évidemment. Non, Julien Bayou, hein,
Jacques Chaban-Delmas. La voix nasillarde du président de l'Assemblée nationale à l'époque, ça doit être une archive qui se situe
le lendemain
effectivement,
le 30 mai.
Mystérieuse disparition du général de Gaulle. Pour les plus jeunes, il faut se dire qu'il y a eu une sorte de fuite de Varennes, comme celle de Louis XVI, et la disparition le 30 mai, le 29 mai, au matin, et le retour le 30 mai, donc pendant 24 heures, en coupant tous les radars, en fuyant comme un voleur pour échapper au service de la sécurité militaire, aux flics de son propre ministre de l'Intérieur ou de Georges Pompidou, le général va disparaître. Il part avec sa femme, il part avec beaucoup de valises.
On l'attend à Colombey, il n'arrive pas à Colombey, hein, vous racontez ça dans le livre.
Il disparaît en fait à Baden-Baden, là où résident les troupes françaises résidentes en Allemagne, nombreuses. On a beaucoup discuté sur cette disparition, et moi, mon roman...
C'est un roman
où je me mets dans la tête des protagonistes. Je suis un amateur autant de Shakespeare, et il y a quelque chose d'un peu shakespearien dans ce personnage de De Gaulle, mais c'est du House of Cards, parce que pendant ces 24 heures, la droite, la gauche vont essayer de prendre la place de De Gaulle, qui a mystérieusement disparu. Car si on ne remplace pas De Gaulle dans l'instant, les troupes communistes ont craint une manifestation d'un million de communistes.
C'est parce qu'on est en mai 68, rappelons le contexte,
on
quand
est
même,
en
la
mai
France
68,
est dans la rue.
Il y a 15 millions de grévistes. Le président De Gaulle n'a pas dormi depuis 10 jours. Le 10 mai, on est le 29 au soir, quand il prend sa décision de partir, la police a perdu pied contre les manifestants. Il convoque, c'est pas Macron, hein, il convoque le Conseil des ministres à 5 heures du matin et il demande à faire tirer sur la foule. Les ministres refusent.
Il apprend que Jox, à l'époque, négocie, vous le racontez dans le livre, c'est romancé évidemment, et il dit, on négocie avec ces zigotos.
En fait, j'ai voulu reconstituer, et j'ai reconstitué à travers tous les récits, donc c'est pas... Il y a une part de... j'ai été là où les historiens ne vont pas, mais je m'appuie sur tous les témoignages de l'époque. Cette nuit où De Gaulle veut faire tirer, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, selon Pompidou, selon les mémoires de Georges Pompidou, c'est une agression dont Madame De Gaulle est victime la veille au soir. On l'agresse dans la rue. Et qui l'agresse ? Qu'est-ce qui choque De Gaulle, à qui on veut cacher l'affaire ? C'est que c'est un monsieur à DS. Vous savez, les Citroën, qui étaient le modèle de la bourgeoisie, dit qu'elle a besoin de faire un référendum ou de dissoudre, puisque on veut tuer ma femme. Ouais. Il est inquiet pour la
santé. Et c'est Massu qui le remet finalement.
Il est inquiet pour ses
enfants,
il fait venir son fils, sa belle-fille, ses quatre enfants. Donc les gens qui disent, finalement, le général était machiavélique, il a tout préparé, c'est faux. En tout cas, c'est ce que moi, mon intuition de romancier fondée sur l'histoire.
Et le général Massu lui dit non, tu y retournes, tu assumes. Et donc, il y a
là, il y a un face-à-face, effectivement, le plus con. Je mets des guillemets de l'armée française parce qu'on se moquait tous de Massu, tout le monde se moquait dans le gaullisme de Massu.
On est trop vieux pour faire la guerre,
va le retourner de manière assez, ce que je raconte de manière assez détaillée dans ce livre. Mais c'est aussi une réflexion sur le pouvoir que j'ai écrite en plein gilet jaune.
Et justement, je voulais peut-être entendre nos camarades de jeu parce que juste la quatrième de couverture, c'est que se passe-t-il quand le peuple se met en rage et veut faire tomber le prince qui gouverne? Mais on est en plein gilet jaune là. Enfin, les gilets jaunes, c'est ça aussi, un peu quelque part. Par Julien Bayou. Il voulait la tête de Macron.
Moi, je découvre cette version de la fuite de Baden-Baden. Moi, j'étais resté sur le fait d'aller s'assurer le soutien de l'armée et de pouvoir, par la suite, reconquérir, entre guillemets, l'actualité, l'opinion par la dissolution. Donc,
C'est une des thèses. Hein. Moi, je ne tranche pas, mais c'est pas la mienne. C'est la thèse des officiels gaullistes en disant il était génial, machiavélien, etc. Sauf que vous partez pas avec les bijoux de famille, les archives, les valises, votre fils, votre belle-fille et les quatre enfants. Enfin,
c'est fascinant.
Là, si je peux faire une confidence, c'est que moi, je me suis retrouvé en tant que porte-parole à discuter de l'actualité, à débattre avec bon nombre de députés En Marche. Depuis donc 6 mois, depuis le 17 novembre. Mmh. Et au début, il y avait des députés En Marche. Et en fait, depuis quelques mois, en fait, il n'y avait plus que des députés MoDem, qui sont beaucoup moins nombreux.
Quand vous dites discuter, dans quel cadre ?
Dans les débats, les chaînes d'actu continuent pour commenter les actes qui se suivent. Les députés En Marche ne venaient plus. Parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Ils ne savaient pas quoi dire puisque c'était Emmanuel Macron qui décidait tout seul et eux ne savaient pas quoi en penser, en vrai. Ils ne savaient pas commenter cette affaire de maintien de l'ordre ou ces bavures policières et ces violences qu'il faut, il faut mentionner, ces violences à l'égard des policiers aussi. Et ils envoyaient du coup des députés MoDem un peu plus...
ils n'étaient pas à Baden-Baden, mais ils n'étaient pas...
Je crois qu'il y a eu une sorte de déconnexion et qu'ils ne savaient plus très bien comment s'en sortir.
Il nous reste une minute, Jadzab.
Oui, je vais faire très vite. Je n'ai pas encore eu le plaisir de lire le livre, je le lirai dès demain. Ce qui a l'air passionnant, effectivement, c'est de voir que chaque personnage est dans la vie privée, ou en tout cas est différemment que l'image que les citoyens peuvent en avoir. Et en l'occurrence, le général de Gaulle, c'est la mythologie de la Ve République. C'est, on le disait tout à l'heure à propos des Républicains, c'est la figure qu'on convoque, la force, la projection. Mmh. Et en fait, effectivement, on se rend compte que finalement, le général de Gaulle est un être humain. Et voilà, ça a l'air passionnant et je le lirai avec grand plaisir.
Le mot de la fin pour Jean-Marc Benabou.
C'est un président défaillant, c'est ça qui est émouvant et qui surtout est son successeur et la droite de Pompidou. Et Jacques Chirac, et en fait, je veux dire, la jeunesse qui vient. Donc, c'est un personnage complexe et tout à fait shakespearien.
Vous m'avez passionné tous les trois ce soir sur tous les sujets d'actu et notamment aussi sur ce livre, Le Général a disparu, Georges Marc Benamou. Merci beaucoup. C'est chez Grasset, c'est à partir de demain chez toutes les bons libraires, comme on dit. Merci à vous trois, Jadzab, Georges Marc Benamou et Julien Bayou d'avoir participé à ces informés. Les informés reviennent demain à 20h sur France Info, la radio.